Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, Pierrot Pierre Murat de Télérama, Nicolas Chalère de l'Obs et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et surtout d'une heure en série tous les samedis soirs à 20h. Sur notre chaîne, on parle ce soir des nouveaux films d'Audrey Diwan, Emmanuel Berco, Pedro Almodovar, Ridley Scott, encore Ridley Scott, Mohamed Rasoulof, Ivan Attal, Kirill Serebrennikov. Et je vous annonce en même temps que dans ce théâtre de l'Alliance française, nous ont rejoint non seulement les fidèles de l'émission, mais aussi des élèves en master média de l'ESCP Business School de Paris et aussi, et je les salue plus particulièrement, trois élèves venus du lycée des Îles Sous-le-Vent à Raiatea en Polynésie française, ainsi que leurs professeurs. Voilà, dans le courrier de la semaine, des hommages aux Olympiades de Jacques Audiard pour Arnaud Sanquer, mise en scène, photographie, personnages, dialogue, distribution, tout est beau, élégant, jusqu'au béton. Et pour Françoise Cabiron, c'est un poème urbain et contemporain dont le noir et blanc restitue une géométrie que l'on perdrait avec les couleurs. Damien Vabre salue l'interprétation de Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merland, Jenny Bett, des dialogues vifs, un superbe noir et blanc, mais Jérôme Duvivier de Lyon juge qu'à force de vouloir cocher toutes les cases d'une génération qu'il ne comprend pas, Audiard oublie de nourrir la relation entre ses personnages. Quant au noir et blanc, il ne se justifie absolument pas et fait figure de coquetterie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que avec The French Dispatch, Wes Anderson n'a pas séduit nos auditrices et auditeurs. Pour Valérie d'Angoulême, malgré tes efforts, Sophie. Hein.
Eh oui.
Pour Valérie d'Angoulême, les scènes se succèdent à une cadence trop rapide. J'ai l'impression d'avoir vu une bande-annonce d'1h40. Rémi Douvenot parle du naufrage d'un réalisateur talentueux. Wes Anderson joue avec ses acteurs comme avec des Playmobil. Et le film est d'un ennui abyssal. Philippe Coutelas a trouvé ce film à la fois épuisant et ennuyeux, avec son maniérisme agaçant, son défilé de comédiens fameux et grimés, ses décors copier-collés d'un film de Jacques Tati ou alors de Jean-Pierre Jeunet, mais dont les couleurs auraient passé avec le temps. Pascal Hénard de Bourg-les-Valence a vu un film au style chichiteux, maniéré, pour cacher des vignettes sans cohérence. En revanche, la Sophie, tu vas être contente, mais elle est seule. Hein.
Mais c'est pas grave.
Muriel Plenet a trouvé le film de Wes Anderson foisonnant, inventif, transportant, et ça nous change, nous écrit-elle, des films français sur des gens qui ont des rhumes dans des 120 mètres carrés. La formule
très bien, je remercie beaucoup.
N'est pas fausse. Allez, on a beaucoup de films à voir ce soir, on commence tout de suite avec House of Gucci, un film de Ridley Scott. Mais oui, 2 mois après le dernier duel, le cinéaste de 83 ans remet ça, et avec une ribambelle de vedettes, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino, je crois que j'en ai oublié. Et l'histoire de ce docudrama, on la connaît. En 1995, Maurizio Gucci, l'héritier du fondateur de Gucci, est assassiné. Et c'est Adam Driver qui, je vous le rappelle, jouait Jacques Legris dans le dernier duel. Sa femme, Patrizia Reggiani, surnommée bientôt la Veuve Noire, est incarnée par Lady Gaga, idéale pour jouer une veuve, hein, a commandité ce meurtre avant qu'il ne se remarie avec Paola, qui est jouée par Camille Cotin, afin de pouvoir toucher une part de son héritage. Et tout ça dure 2h37. Je dis bien 2h37. Tu as aimé, je crois, Xavier ?
Je confesse avoir envoyé un texto pendant la projection pour te maudire sur plusieurs générations d'avoir inscrit House of Gucci au programme.
J'ai commencé par inscrire Ridley Scott, quand même un cas, franchement.
Ouais.
Le dernier duel, on en parlait à cette tribune il y a quand même quelques semaines.
Oui, simplement. Oui, ben je sais.
Il a travaillé, aussi, oui, oui.
Il y a aussi quelques navets chez Ridley Scott et Hotel Gucci, figurent en très bonne place, on va dire, dans cette filmographie de la honte. Bah, c'est de la contrefaçon, hein. Tout est faux, de toute façon, tout est toc. C'est impressionnant. On a l'impression que le scénario n'est jamais au bon endroit, parce qu'il y a quand même une vraie histoire, qui est non seulement l'ascension, effectivement, de ce fils qui ne voulait pas grimper les échelons de cette maison et la représenter, et qui le fait contre lui, et qui va découvrir peut-être sa véritable nature, c'est-à-dire celle d'un type carnassier comme ça. Et puis, face à lui, dans l'ombre, mais sans qu'il le sache, l'ascension de Tom Ford, qui va réussir à lui voler la maison Gucci, quand même, ce qui est, alors je raconte la fin, mais enfin bon, c'est un peu connu. Et on se dit que c'était exactement ça qu'il fallait raconter. Ah, mais
il n'y a rien inventé, hein.
Non, il n'y a rien inventé.
Du début à la fin,
mais c'est
vrai,
une question d'équilibre.
La
ça, c'est vraiment.
N'est pas contente, hein. Les héritiers Gucci,
oui,
pour sa pointe,
les faits sont tous corroborés, hein. Il n'y a pas de.
Non, mais simplement pour dire que là, il y avait une véritable histoire à fouiller et que, évidemment, il y avait moins de place pour Lady Gaga, pour la veuve noire, qui, quand même, est la tête d'affiche. Donc, il faut lui ménager quelques scènes. Et elle les prend, hein, les scènes, jusqu'à la dernière où, effectivement, lors du procès, on lui rappelle son premier nom qui est Reggiani, elle fait non, Gucci. Et là, elle fait une grimace pendant 3-4 minutes parce qu'elle sait que c'est le plan final et qu'elle est la vedette du film. T'as envie de lui dire, vous avez un problème, madame? Enfin, je veux dire, faudrait peut-être aller consulter. Le reste est abyssal de bêtises. Alors, il parle avec des accents italiens de pacotille. Ils ont dû prendre des cours, sans doute, auprès d'un faux italien à Hollywood qui leur a donné quelques trucs. De temps en temps, il glisse des mots italiens pour faire genre gelato, cioccolato. Enfin, comme ça, au moins. Pas besoin de sous-titrer plus qu'il n'en faut. La dramaturgie est jamais là. Il y a une scène, il y a deux scènes qui ont fait ma joie. D'abord, la première, il est au volant, il veut pas aller à New York, il veut pas répondre à l'invitation de son oncle, et elle lui fait une pipe. Scène suivante, ils sont à New York.
Ça fait ta joie, ça?
Bah oui, je me dis que si à chaque fois on fait une pipe, on a un voyage à New York, ça a peut-être, je sais pas, des vocations. Enfin, en tout cas.
C'est une pipe triste.
Oui, mais au moins t'as un voyage à New York.
Non, mais je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Et la dernière scène qui me fait mourir de bonheur, c'est quand elle revient dans la maison et qu'elle va dégager Camille Cotin. Et là, il y a un hommage à la série Dynasty avec Joanne Collins, quoi. C'est-à-dire qu'elle l'étreint. Maman, elle pleure sur l'épaule de Camille Cotin et puis bah maintenant vous la vivez. Et. C'est tellement caricatural, c'est tellement ringard, c'est tellement à côté du sujet, sur les grandes maisons de mode, sur le capitalisme, sur la manière dont ces maisons ont perdu leur âme au profit de l'argent, qu'on se dit, mais merde, il a loupé son sujet, quoi.
Sophie, qui est venue en Gucci pour nous ce soir.
Il faut être rapide, je crois. Hein. Alors moi, ça va être très rapide. Je n'aime rien dans ce film. Rien, mais rien. Je suis exactement de l'avis de Xavier. Non, mais j'allais justement dire que j'étais de ton avis. Il y avait tout pour faire une histoire, un truc magnifique. Il y avait la dynastie, il y avait la malédiction des dynasties. Hein. Première génération, on crée. Deuxième génération, on fait prospérer. Troisième génération, on gaspille et on ruine. Il y avait l'amour, il y avait la passion, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait Tom Ford, il y avait en effet des tas de choses. Et je ne sais pas ce qui se passe. C'est mal écrit, c'est mal joué, rien ne va. Et alors, les entendre parler, en effet, dans cet anglais... Je veux bien croire que les Gucci, entre eux, pouvaient se parler anglais. Ils vivaient, qui à New York, qui à Londres, etc. Peut-être que de temps en temps, ils s'échangeaient un ou deux mots en anglais, mettons. Mais là, entendre parler des Américains qui se forcent à prendre un accent italien pour faire vrai, ça fait faux. Mais c'est une falsification totale. On ne peut pas y croire de la première seconde à la dernière seconde. Je trouve ça, mais horrible.
Est-ce que là, vous, à la raison pour laquelle Ridley Scott a choisi de faire ce film?
Non, mais je pense qu'il tente quelque chose de très bizarre. Souvent quand il va en Italie, il avait fait Hannibal déjà qui se passait en Italie. Je pense qu'il essaie de faire quelque chose d'un peu bouffon, d'un peu grotesque, comme ça, côté comédia dell'arte. Mais sauf qu'on a l'impression qu'il n'était pas là pendant le tournage ou qu'il a filmé les répétitions directes et qu'il les a montées les unes après les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Tout est dévitalisé. Et moi j'aurais aimé voir ce que vous racontez de faux. Justement, les accents, je trouve ça intéressant. Et ça me rappelle un film qui s'appelle American Bluff de David O. Russell qui jouait là-dessus justement sur des personnages qui étaient tellement dans le faux, qui s'inventaient des vies qu'ils n'ont pas, des petits personnages, je sais pas. Et ça aurait été intéressant, je trouve, qu'il joue le faux à fond. Mais sauf que les dialogues sont tellement plats, la mise en scène n'est tellement pas, ne prend tellement pas en charge, justement. Jared Leto, qui est complètement à côté dans chaque scène, il est totalement bouffon.
Moins que Salma Hayek,
mais lui, il essaie quelque chose. Sauf que la mise en scène ne le prend pas en charge du tout. Moi, j'étais ravi de revoir Al Pacino, mais on a l'impression qu'il se démène comme il peut avec ce qu'on lui donne. On a l'impression Ridley Scott, il a pris les montres, les bijoux, les costumes, et il s'est barré, il a laissé l'assistant, quoi. Il y a vraiment. C'est pas du Gucci, c'est du gâchis, vraiment.
Non. Allez, one point.
Tu vois.
Allez, c'est vraiment dommage.
Pierrot. Non, mais je vais faire très court. Non, mais c'est 2h30 d'ennui.
2h37.
Oui, d'ennui absolu. Alors, en plus, Lady Gaga joue un personnage qui, dans le texte, c'est dit, devrait ressembler à Elizabeth Taylor. Elle ressemble plutôt à Gina Lollobrigida, et encore si on est très drôle,
ou un peu
Liane Folly. De toute façon, moi je ne pardonnerai jamais vraiment à Ridley Scott d'avoir gâché Al Pacino. Pacino, c'est mon Pacino à moi, c'est un des plus grands comédiens au monde, enfin, je veux dire. Pardon?
Il
est grotesque. Grotesque. Et rendre Pacino le plus grand acteur du monde, quand on le voit dans Un après-midi de chien ou dans Serpico, le rendre grotesque à ce point-là, c'est impardonnable.
On espère qu'on va le voir dans d'autres rôles d'ici peu.
Gucci de Ridley Scott. Eh bien, on passe à Madresse Paralelas. Comprenez, Mère Parallèle, le nouveau film de Pedro Almodovar. En apparence, c'est un film sur la maternité. Deux femmes, Janice, photographe de mode de 40 ans, c'est Penélope Cruz, et Anna, une adolescente qui est jouée par Milena Smith, dont la mère est comédienne. Toutes deux sont sur le point d'accoucher. Elles se rencontrent dans une chambre de l'hôpital, enfin de la maternité, et toutes les deux sont tombées enceintes par accident. Alors l'une en est heureuse, c'est Janice. L'autre paniquée, c'est Anna. Mais ces maternités parallèles cachent un sujet beaucoup plus grave, qui remonte à l'époque du franquisme. C'est celui des fosses communes où ont été jetées les victimes de la dictature, parmi lesquelles l'arrière-grand-père de Janice, c'est-à-dire de Penélope Cruz. Elle voudrait, comme beaucoup d'Espagnols, qu'on puisse redonner aux morts la sépulture à laquelle ils ont droit. Un sujet qui est un grand débat national en Espagne, qui n'est que le prologue et l'épilogue de ce film, mais où, pour la première fois, Almodovar évoque de front ce terrible héritage de la guerre civile espagnole et ses quelques 115 000 disparus des fosses communes. Sachez enfin, j'en dis pas plus, vous non plus j'espère, que l'ADN va jouer ici un rôle capital, aussi bien pour le passé que pour le présent de ces deux mères. Sophie.
C'est un film très passionnant, en même temps un peu en dessous de ce à quoi on est habitué avec Almodovar, qui est quand même un cinéaste de haut vol, et là, c'est un peu en deçà. Mais malgré tout, je trouve que le film est passionnant. Tu dis que la maternité cache l'histoire des fosses communes. C'est la même histoire, à la vérité. On a un prologue qui serait le passé.
C'est pas la même histoire, non.
C'est la même histoire, c'est l'histoire d'une filiation, d'une transmission, d'où on vient, et tout ce qui, de génération en génération, devrait de cacher, de pas cacher, ressort à un moment ou à un autre. C'est la même histoire, mais traitée autrement. Mais de toute façon, les choses s'entremêlent de manière très fine, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le film. En effet, il y a ce prologue qui, pour moi, est plutôt de l'ordre du passé, avec l'épilogue qui, en effet, serait plutôt l'avenir, puisque à ce moment-là, les corps sont exhumés, la vérité apparaît sous l'œil de la petite fille, donc on est dans l'avenir. Et l'histoire qui nous... Enfin, le cœur du film, c'est en effet ces maternités parallèles qui représente le présent, dont on ne peut pas dire en effet trop de choses, parce qu'il se passe des choses et des rebondissements absolument extraordinaires.
Qui ont trait à l'ADN.
Ce qui est génial, c'est que Almodovar profite de cette maternité pour en faire une sorte de presque d'allégorie de ce qui nous dépasse dans la vie, de ce qui nous échappe dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on porte sur les épaules depuis des générations et des générations. La génétique d'ailleurs est en train de le prouver. On ne sait pas ce qu'on porte, on ne sait pas ce qu'on transmet. Et la maternité, ben c'est pareil, finalement. On sait qu'on porte dans le ventre quand on est mère ou quand on est père. Non, mais quand on est mère, on porte un enfant dans son ventre. Mais on ne sait pas de quoi il sera fait. On ne sait pas quel amour on va avoir pour lui. On ne sait pas à quoi il va ressembler. Bref, tout nous échappe. Tout ça pour dire qu'on croit qu'on fait des choix, mais à la vérité, on est beaucoup moins l'auteur de sa vie qu'on en est le jouet, même si on a un libre arbitre et des choix. Et d'ailleurs, Penélope Cruz, à un moment donné, fait un choix... va-t-elle mentir ou pas? Il y a les histoires de secrets, de mensonges et de vérités qui sont évidemment très présentes dans le film, mais je trouve qu'il utilise la maternité de manière extrêmement subtile.
Et la jeune qui joue donc Anna, qui est Milena Smith, qui est une vraie découverte, toute jeune,
les actrices sont vraiment très, très bonnes.
Ben, c'est un bon Almodovar. Vraiment, ce que j'aime, on retrouve ce qu'on a toujours aimé chez lui, c'est-à-dire le sens des péripéties rocambolesques. Il a l'art de nouer des intrigues, de les compliquer à loisir, de les rendre les plus artificielles possibles, et en même temps, justement, de cet artificiel, les rendre naturels. Et ça, il le fait très bien, il réussit à le faire, et donc ça, je trouve ça très bien. J'ai eu vraiment très très peur au début, je dois le dire, parce que je sais qu'on... C'est pratiquement inattaquable, Pedro, actuellement. C'est un monument. Donc, j'ai eu vraiment très, très peur au début. Je trouve les 20 premières minutes, c'est-à-dire la rencontre de Penélope Cruz avec celui qui va devenir le père de l'enfant. mais extrêmement mauvaise. Mais vraiment extrêmement mauvaise, c'est-à-dire, c'est un discours filandreux.
T'exagères.
Filandreux. Ah non, c'est vraiment filandreux.
C'est pas extrêmement mauvais, c'est pas vrai.
C'est très mauvais. Non, c'est très mauvais, c'est mais même non. indigne de Pedro Almodovar, qui est vraiment un cinéaste que nous admirons tous. Mais là, il est fatigué, il était vraiment fatigué. C'est des chants, mais contre-chants sur Penélope Cruz et le partenaire. Et ça déroule une sorte de, et elle raconte, et elle, c'est vraiment, mais indigne. D'Almodovar.
Arrête, c'est pas indigne.
À côté de ça, il y a une virtuosité par la suite, extraordinaire.
Après, c'est très très bien.
C'est pas Serebrennikov, ça, c'est sûr.
Penélope Cruz est formidable, sa partenaire, enfin, tout le monde est très 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 bien. Mais voilà. Il se trouve que j'ai revu La Loi du Désir, qui est peut-être en 85-86, un de ses premiers films. Il y a tout dans La Loi du Désir, ces intrigues enchevêtrées, mais une espèce de force de qui n'y a plus. Mais il faut y aller, ça reste un très bon Almodovar.
Nicolas.
Non, ce qui est beau chez Almodovar, je comprends la réserve sur le début, mais je trouve un peu violent.
Mais c'est pas indigne, je veux dire.
Non, c'est pas du tout indigne.
Indigne d'Almodovar. Mais pas du Almodovar. Indigne du cinéma, évidemment.
Pas du Almodovar d'aujourd'hui. Moi, ce que je trouve beau chez Almodovar, c'est que son cinéma vieillit au même rythme que lui, et qu'il y a effectivement des renoncements dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose de plus en plus dépouillé et d'asséché dans le filmage, depuis Julieta, je trouve, et l'image vidéo n'aide pas aussi. Je pense que le passage à la vidéo fait qu'il y a quelque chose d'un peu d'aplat dans l'image qui choque un peu. Après, ce qui est très beau, c'est qu'il y a toujours cette maîtrise et cette intelligence du scénario et de la direction d'actrice qui nous emporte, c'est-à-dire qu'à passer ce premier quart d'heure, il nous emporte dans une histoire tortueuse et en même temps cette
mais
manière...
Mais il faut le prologue, pardon, d'un quart d'heure pour qu'on comprenne l'enjeu et son épilogue.
Il y a un côté télénovela un peu, mais c'est pas grave parce qu'après il nous emporte dans ce qui fait de plus beau, c'est-à-dire de corriger les blessures de la vie à travers les vicissitudes du mélo, quoi. Et ça, c'est vraiment très beau. Et la manière dont elle le disait très bien, Sophie, comment la petite histoire de ces deux femmes rejoint la grande aussi par des détails, des motifs, c'est-à-dire que la mère de la fille joue une pièce de Garcia Lorca qui était une des célèbre victime du franquisme. Il y a une histoire qu'on ne va pas raconter, mais autour des bébés, qui fait référence à des atrocités pendant la guerre. Alors, je vous conseille vraiment de lire après coup ce que raconte Almodovar là-dessus, parce que ce serait trop dommage de dévoiler des choses. Mais tout fait sens avec une subtilité assez folle. Et rien que pour ça, et puis se confronter quand même à ce sujet, voilà, à son âge-là, moi, je suis content qu'il y soit allé quand même assez franco sur la chose.
C'était en toile de fond de temps en temps, mais qui n'a jamais été fait de manière aussi directe.
Non, fallait pas tenter un deuxième jeu de mots là-dessus.
Voilà, c'était le deuxième, il est passé.
Nicolas vient tenter un jeu de mots sur la fin de sa sortie.
C'était quoi, j'ai pas entendu, moi, non plus.
Il fallait pas y aller franco.
Voilà. Oh.
J'ai même honte de le répéter. Mais voilà. Alors.
J'ai regardé s'il les prépare, ça.
Oui, non. J'espère pas.
Hein? Non. Tu en as combien, comme ça?
On va faire vite. Moi, je suis très déçu par ce Almodovar. Je trouve que c'est vraiment mineur. Là où vous trouvez de la virtuosité dans le scénario, je trouve que les articulations se voient à 10 km. Mais vraiment, et de façon parfois un tout petit peu stupéfiante, venant de quelqu'un qui a quand même la virtuosité et le talent d'Almodovar. La retrouvaille des deux mères au café, la question qui n'est pas posée pour pouvoir justement différer le suspense avec la réponse que l'on a donc largement le temps de deviner. Je trouve que de temps en temps, mais on dirait du soap, c'est filmé comme du soap.
Ça a toujours été comme
il y a des entrées et des sorties. Oui, mais de temps en temps, ça se voit et ça n'est pas tout à fait l'endroit. Je peux terminer ma phrase. Merci Nicolas. Tu sais que l'autocratie n'est pas encore. Éric Zemmour n'est pas président, donc j'ai encore le droit de m'exprimer. Je connais sa technique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des entrées et des sorties de chant qui sont vraiment dignes de la télé pour évacuer les personnages sur la droite et sur la gauche. Enfin, vraiment, c'est pas digne de lui. Je trouve ça laborieux en termes d'écriture. Il y avait un vrai sujet qui était le franquisme dont il avait souffert lui-même. Il le traite. Alors oui, effectivement, c'est pour expliquer. Alors, Sophie en parle magnifiquement, mais c'est plus une note d'intention que le film
mais
que j'ai vu avec des dialogues parfois un peu embarrassants. Mais c'est pas possible quand on n'est pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, on se tait. C'est, je trouve ça, mais pas bon, je trouve que le côté...
L'émission n'est pas finie, je te...
Je sais, le côté pop IKEA, avec ses petites symétries, ses couleurs, pour parler du franquisme et pour évoquer les heures sombres de l'Espagne, ben non, j'ai envie de dire ben non, je voudrais un autre décor, je voudrais quelque chose de plus ancré quand même.
Ça, c'est de la critique, ça.
Dans une certaine réalité, ben oui, parce que tout fait ça chez lui.
Ben non.
Ah, ben ça va. Non, mais il y a un côté, oh là là, on va remettre le coussin parce que c'est pas bien d'équerre, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il fait même pas confiance à son sujet. Non, je suis extrêmement déçu. Alors, quand t'as Penélope Cruz,
Ah oui, il y a déjà un problème,
Cruz,
en fait.
Elle en fait... Mais des caisses, elle a une intention à chaque fois qu'elle doit jouer quelque chose. Quand elle est là avec son écouvillon, elle se déforme. Mais non, je suis désolé. Il faudrait qu'elle joue... l'autre comédienne joue avec une impassibilité, un naturel formidable, et Penélope Cruz, elle sent qu'elle a un grand rôle, là, il faut absolument qu'elle y aille. Oh donc, non, tout a une intention, on va jouer avec l'œil, on va jouer avec le sourcil, on va jouer avec
alors
la paupière.
Que toi, t'en fais pas trop du tout.
Ah. Mais moi, je me mets à son niveau.
Voilà. Mais il est pas acteur en même temps.
Et alors, Penélope Cruz, en train de faire la tortilla, je crois que je ne m'en suis jamais remis.
Bah c'est génial, cette scène.
M'adresse parallélas. De Pedro Almodovar, est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Oui, deux réactions. Bonsoir.
Bonsoir, je vais être très rapide. Je vénère Pedro Almodovar, je le crois parmi mes plus grands moments et de cinéma de toute ma vie. Mais là, il y a un hiatus manifeste entre la forme et le fond. Voilà, il se trouve que bon, je suis petit-fils d'un brigadiste international. Comment peut-on évoquer ce qu'on pourrait qualifier par euphémisme des heures sombres de l'Espagne, de 36, les charniers et les fosses communes des républicains tués par les franquistes dès le mois d'août 36, avec des petits décors, des jolies couleurs, moi ça m'a particulièrement choqué.
Il évoque les traces actuelles, c'est pas raisonnable.
Il ne fait pas qu'on évoque les traces actuelles puisqu'on revient sur les lieux, il y a une fouille dans un charnier et que non, c'est il passe complètement à côté du sujet, à mon sens. Voilà. Ça me fait une peine énorme de l'attaquer sur ce plan-là, mais il n'est pas du tout au niveau du problème historique de la guerre d'Espagne.
Une autre réaction.
Le sujet n'est pas la guerre d'Espagne, c'est ce qu'aujourd'hui monsieur, il en reste.
Oui.
Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon Almodovar. J'apprécie beaucoup la façon dont il filme ses comédiennes, qui sont ses muses, Penélope Cruz et puis toutes les autres. Vraiment, c'est son univers. On retrouve vraiment un grand Almodovar. Et puis, Sophie l'a dit, c'est toute une réflexion sur la famille, sur la filiation, sur la génétique. Et à un moment, il y a une scène que vous n'avez pas évoquée. Quand elle évoque sa famille, elle évoque tous ceux qui ont été massacrés. Mais dans la famille, il y a un carliste. Et les carlistes, ils étaient du côté de Franco. Et alors à ce moment-là, quand on sort de ce film, effectivement, on se précipite, et c'est ce que j'ai fait dès hier soir, je l'ai vu hier le film, j'ai réouvert Pour qui sonne le glas, relisais ce merveilleux roman d'Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas, et bien sûr on pense au film éponyme qui a été tiré de ce roman, et là vous faites le lien, et relisez aussi l'histoire de la guerre d'Espagne de Hugh Thomas, le meilleur livre sur la guerre d'Espagne que je connaisse, à mon point de vue. Hugh Thomas, la guerre civile d'Espagne.
De vos interventions, on parlait de Pedro Almodovar et de son film M'adresse parallélas. L'événement, le deuxième film de la franco-libanaise Audrey Diwan, qui est aussi la co-scénariste de Bac Nord, et c'est avec Anna Maria Bartolomé, Kassem Oteklin, Luana Bajrami. Ce film a reçu le Lion d'Or, je le rappelle, à la Mostra de Venise, et c'est l'adaptation du roman autobiographique d'Annie Ernaux. On est en 1963, soit 8 ans avant le manifeste des 343 femmes déclarant à la une du Nouvel Observateur avoir avorté, et 12 ans avant la loi Veil légalisant l'IVG. Anne est étudiante d'un milieu modeste, très modeste. Elle se retrouve enceinte d'un fils de riche et elle décide d'avorter dans cette France où celles qui se faisaient avorter et celles et ceux qui pratiquaient l'avortement étaient punis de prison. Ce film montre la terrible solitude d'Anne, confrontée à des médecins qui ne veulent rien entendre, à des copines qui la rejettent, à son ex-petit copain qui s'en lave les mains. Anne qui est obligée d'en appeler à une faiseuse d'anges. Je rappelle évidemment, mais faut-il le rappeler, que dans beaucoup de pays, la bataille de l'avortement n'est toujours pas gagnée et qu'elle est même déjà perdue au Texas, aux États-Unis. Pierre.
Alors, c'est un film inattaquable. Je vais vous laisser dire tout le bien que vous pensez sûrement du film.
Mais ce film-là aussi, non.
Non, mais attends.
Fallait pas nous inviter.
Non, mais le problème. J'ai un problème philosophique et esthétique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je me souviens d'une émission littéraire où j'ai entendu une citation de Frédéric Becbédé qui reprenait une formule d'Édouard Louis qui disait que la suggestion et la litote étaient des preuves de la domination de la bourgeoisie qui veut taire la pauvreté et la misère. Et je trouve que ce film est un peu l'illustration de ça. C'est-à-dire que j'ai rien contre, mais un petit peu esthétiquement, je me demande si le fait, comme cette réalisatrice, de vouloir tout montrer, d'insister, ajoute à l'art. Moi, je suis, contrairement à la citation que je viens de vous lire, absolument pour les pures et la litote, et je crains qu'une par exemple, on va retrouver ça avec Emmanuel Berco tout à l'heure.
C'est le contraire du Berco.
Ce désir, mais de tout montrer, de insister sur tout, sous prétexte d'ajouter à l'art, pour moi, je trouve que c'est une erreur. Je peux me tromper.
Tu sais quel est le mot qu'a adressé Annie Ernaux à la veille du tournage, cette phrase qui devrait te toucher, qui est de Tchekhov, à Audrey Diwan, « Soyez juste, le reste viendra de surcroît ».
Oui.
Qui était un très beau mot de Tchekhov.
Mais c'est très bien, peut-être.
Et c'est à l'image du texte de Annie Ernaux.
Oui, je suis d'accord, mais je n'attaque ni le sujet que je trouve très important. Je trouve que c'est une esthétique qui est fondée sur tout montrer et qui, moi, me séduit pas. Voilà.
Sophie.
Ah non, moi, je trouve le film magnifique et je le trouve très bouleversant, je le trouve très fort, je trouve pas qu'elle montre tout. Au contraire, elle ne fait que des choix de cinéma. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ce film. D'abord, elle fait de ce personnage un personnage moderne. C'est très important, ça. Elle fait non seulement un personnage
c'est
moderne.
C'est dû à l'excellente Anna Maria Bartolomei.
Bien sûr, Anna Bartolomei qui est formidable. Mais elle en fait surtout une histoire moderne. Tu as rappelé que c'était d'actualité. Ah oui. Et en effet, pourtant, elle esquive pas les marqueurs des années 60. Elle les met elle les montre. On est bien dans les années 60. Et pourtant, eh ben, on est aujourd'hui. Et pourtant, cette jeunesse-là, c'est la jeunesse d'aujourd'hui.
Absolument.
Et ça, c'est formidable. Elle fait aussi de ce personnage une véritable machine de guerre. Et ça aussi, c'est génial. Et c'est là où elle est forte. Parce que cette jeune fille, elle pourrait être victime, fragile. Non, c'est une guerrière. Elle veut absolument poursuivre ses études. Elle veut absolument se faire avorter pour pouvoir poursuivre ses études. Elle en bave. Elle en est dure. Elle se bat de toutes ses forces. Elle en est presque, par moments, antipathique. Mais tant mieux, parce que du coup, on est bouleversé par ce qui lui arrive, non pas pour de mauvaises raisons, parce qu'elle serait fragile ou je ne sais quoi, ou mignonne ou je ne sais quoi, mais parce que ce qui lui arrive est absolument inadmissible, est absolument affreux. C'est un choix de cinéma.
Sûr,
et moi, j'ai le souvenir de le film, je l'ai vu déjà il y a un moment, j'ai un souvenir, bien sûr que ça pourrait être militant, parce qu'il est question de déterminisme social, parce qu'il est question du droit des femmes à disposer de leur corps. Il n'est jamais, dans la démonstration, il n'est jamais militant, on n'est que dans du cinéma. Et quand tu dis qu'elle montre tout, moi, j'ai encore dans l'oreille la voix. Tu ne l'as pas cité, d'Anne Mouglalis,
qui joue la faiseuse d'ange,
qui a une voix grave extraordinaire.
Elle a toute faim.
Et j'ai dans l'oreille ce qu'elle dit à un moment donné, elle dit, et pas un cri, sinon j'arrête. Et là, on dit, oh là là, mon Dieu, tout ce qu'elle va
subir. Parce
qu'elle
le fait dans un immeuble et elle veut pas que les voisins entendent.
Évidemment. Voilà. Et c'est évidemment parce que ça fait tellement mal qu'elle veut hurler.
Et puis que c'est puni par la loi de manière tellement violente.
En plus, bien sûr, il y a tout ça en sous-jacent. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de montrer quoi que ce soit, elle laisse supposer que c'est d'une douleur absolument, il n'y a pas besoin. Bon, et ça, je trouve que c'est très fort. De même que le mot avortement n'est jamais prononcé parce qu'on a peur de ce mot, comme c'était un mot qu'il ne fallait surtout pas formuler. Enfin, ce ne sont que des choix de cinéma. Et juste pour finir, lumière blanche qui est comme une voie lactée au bout de laquelle il y a le diplôme, c'est magnifique.
Nicolas.
Sophie en parle très bien, et je rajouterais même que effectivement, ce qui est fort quand elle dit qu'elle peut paraître antipathique, c'est que ce qu'on ressent vraiment, c'est qu'elle est hors la loi. C'est ça. C'est ce sentiment qu'elle se cache un moment dans un parc pour rencontrer une autre fille qui a eu recours à l'avortement, et là, on a l'impression de voir un deal entre deux gangsters qui préparent un mauvais coup. Enfin, il y a vraiment ce sentiment d'être à côté de la société, d'être à côté de la loi, et ça, on le ressent vraiment. Et encore une fois, faut parler de l'actrice Anna Maria Bartolomei qui incarne la chose de manière assez ahurissante. Après, moi, le film, je trouve qu'il est, il faut le voir, il est très très fort, il est brillant. Il y a juste un petit côté, pour une petite nuance, ça reprend quand même une esthétique qui parfois je trouve l'étouffe un peu, qui est l'esthétique qu'on a vu chez les frères Dardenne, qu'on a vu aussi chez Christian Mungiu avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui traitait un peu du même sujet, mais dans la Roumanie communiste. Et là, il y a ce systématisme de la caméra en longue focale collée au personnage avec tout le flou autour. Parfois, elle aurait peut-être pu s'en détacher un peu parce que j'ai l'impression que n'existe du coup que le personnage principal et qu'autour, c'est vraiment le flou. Et je trouve que il y a un côté exercice de style un peu... je trouvais par exemple que dans son premier film, Mais vous êtes fous, qui n'a rien à voir, il y avait un ton un peu plus original, mais on était sur un autre sujet. Et c'est ce petit côté exercice un peu brillant où je retrouve pas forcément une patte personnelle que j'ai un petit bémol. Mais sinon,
Xavier,
le film est très très fort.
Comme Chaleur m'a piqué tout mon temps de parole, je vais faire vite. Sophie a complètement raison. C'est un grand film parce qu'il fallait rappeler les conditions dans lesquelles les femmes avortaient avant la loi Veil. Faut jamais oublier la douleur et la violence qu'elles ont subies. Mais grâce à les mises en scène, effectivement, Audrey Diwan en fait...
Et grâce aux scènes qu'on voit, dont certaines sont très violentes.
Absolument, mais elle en fait un drame contemporain. C'est pas parce que, et fort heureusement, le planning familial, la prophylaxie existe, qu'elle est enfin enseignée dans les facs de médecine, ça n'était pas le cas non plus à l'époque, elle en fait un drame contemporain, c'est-à-dire qu'une femme qui avorte, ça n'est pas rien, ça n'est pas une décision de confort, ça n'est pas une décision anodine. Oui, oui, bah, Pierre, tu peux écarter les bras comme si j'enfonçais les portes ouvertes. Il faut le rappeler, et c'est vraiment grâce à son choix du cadre de mise en scène et de rester sur ce personnage qu'elle filme la pugnacité, qu'elle filme la détermination, qu'elle filme le combat. Sophie a raison, c'est un film de guerre. J'en parlais avec Avakan hier, elle me disait c'est un film d'horreur, c'est un film de genre. Effectivement, il fallait aller là pour raconter hier et pour raconter aujourd'hui et pour prévenir demain.
L'événement, le film d'Audrey Diwan, qui d'ailleurs connaît pour l'instant une vie expansive puisqu'il va de pays en pays porter aussi ce témoignage et cette parole-là. De son vivant d'Emmanuel Berco, un film qui était en sélection officielle à Cannes, où d'ailleurs Catherine Deneuve, à cette occasion, a fait son retour. Après La tête haute sur l'enfance inadaptée, La fille de Brest sur le scandale du Mediator, Emmanuel Berco raconte les ultimes saisons à l'hôpital d'un homme encore jeune, Benjamin, qui est joué par Benoît Magimel, professeur de théâtre, qui est atteint d'un cancer du pancréas, stade 4. Sa mère, Cristal, qui est jouée par Catherine Deneuve, accompagne ce fils qui savait enseigner à ses élèves comédiens l'art de se quitter. Et dans le rôle de l'oncologue, un vrai médecin, le docteur Gabriel Sarah, qui dirige un service de chimiothérapie à New York, où il pratique une thérapie basée sur la musique, la danse et sur un principe, ne jamais cacher la vérité aux malades. Ce film est un mélo revendiqué, Xavier, avec retour du fils prodigue, et même une relation fugitive de l'infirmière qui est jouée par Cécile de France avec Benjamin. Je dis Xavier parce que je sais que autant j'ai été ému et par ce mélo, autant tu as été exaspéré.
Totalement. Alors c'est le mot juste. On peut passer à quelqu'un d'autre si tu veux, parce que j'ai pas envie de m'acharner sur le film d'Emmanuel Berco, qui est cinéaste que j'aime bien. Là, pour moi, elle n'est pas du tout dans la bonne direction par rapport au sujet. Effectivement, tu as cité Cécile de France dans le rôle de l'infirmière qui tombe amoureuse, mais parce qu'il faut une fonction, il faut bien qu'elle ait une raison d'être dans le film.
C'est un tout petit.
Oui, mais c'est déjà un rôle inutile. On ramène le fils comme ça, effectivement, des États-Unis. Bon, pourquoi pas, parce que. Oui, effectivement, parmi les mantras qu'assène ce médecin, c'est les mantras de cookies fortune, de gâteaux qu'on mange à la fin des restaurants chinois.
On aimerait bien qu'il soit avec nous.
La montagne est haute, mais on va la gravir main dans la main. Ouais, bon, d'accord, ok. C'est un mec qui sent les xylophones quand vous êtes en chimiothérapie. Moi, je préfère aller crever dans les chiottes, je le dis tout de suite. Je trouve qu'elle n'est jamais dans le sujet.
On verra.
Elle est. Bah écoute, je ne t'inviterai pas, ça de toute façon, parce que je ne veux ni le xylophone, ni Nicolas Chaleur. Tu vois ? Voilà. Donc c'est ça, je ne comprends pas. Elle a une admiration folle pour ce médecin, et je la comprends, mais je ne la partage à aucun moment. Et à aucun moment, la mise en scène ne m'invite à comprendre ce type-là, qui, encore une fois, assène des vérités, je trouve, mais d'un premier degré effarant. Et il n'y a pas de profondeur. Enfin, tu vois, c'est une espèce de film prosélyte pour ce type, et ça ne m'intéresse pas.
Pierre,
je suis pas rentré dedans non plus. Je trouve que c'est un film un peu sentencieux sur la mort. Je trouve que c'est un film un peu sentencieux sur la médecine, parce qu'on aimerait ce médecin, mais quand ce médecin, dans une conférence avec ses infirmières, dit le malade est mort tout seul parce que une infirmière raconte que la malade s'est absentée. Une femme dont le mari est mort s'est absentée pendant 10 minutes. C'est tout début, hein, je raconte pas grand-chose de secret. Et elle s'en veut d'être partie juste au moment où il allait mourir. Et le médecin lui dit, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il a voulu, il l'a chassé. Enfin, c'est bien, il voulait être seul, il voulait mourir seul. Ça me paraît complètement...
Ce sont les séances où tous les soignants sont réunis par le médecin.
Ça a
un rôle. Bon, et deuxièmement, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est faux?
Non, je ne dis pas, mais je m'explique que ça ne me touche pas. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Mais...
Ça m'effraie.
Ça fait écho un peu lourdement à la fin.
Nous sommes tous subjectifs devant ce micro. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je trouve que, en plus sur le théâtre, je trouve que Benoît Magimel est un très mauvais metteur en scène de théâtre quand il fait répéter ses comédiens et ses acteurs apprentis comédiens ne sont pas bons. Je ne suis pas rentré
les
dedans.
Les scènes où les élèves se quittent, elles sont magnifiques.
Ils sont très bien.
Magnifiques.
Très bien, Jérôme, je suis d'accord. Je suis heureux que tu aies été ému par ça. Moi, un mélo est fait pour m'émouvoir et moi, pas. Voilà, je suis absolument désolé.
Nicolas.
Non, moi je serais un petit peu moins sévère quand même que mes camarades, parce que je trouve qu'il y a déjà deux grands comédiens. C'est-à-dire que il y a Magimel qui est absolument, je pense que bon, là, il va avoir son César et qu'il le mérite parce qu'il est vraiment, vraiment.
Ah, tu penses pour ce film-là?
Enfin, je dis ça, j'en sais rien, parce que les Césars, de toute façon, pour ce que c'est devenu. Il est formidable. Enfin, d'arriver comme ça à jouer la chose sans appuyer, de cette dégradation physique et à la fin, comment il ne peut même plus parler et tout ça, je trouve ça quand même assez fort. Deneuve, moi je la trouve vraiment bien. Elle est en retrait. Elle est presque pas dans le dire. Elle est dans le, dans les regards et dans une espèce de comme ça de présence compassionnelle et en même temps souffrante, triste, en voyant de voir son fils comme ça, et au chevet duquel elle va retourner à un moment où ça n'aurait pas dû être le cas, quoi. Enfin, c'est assez beau. Je trouve les jeunes comédiens sont formidables. Après, le vrai problème, c'est que j'ai l'impression que Emmanuelle Berco ne sait pas vraiment le film qu'elle veut faire. On est entre le mélo effectivement hospitalier où alors la manière dont elle utilise la musique est pas possible, c'est-à-dire que moi à chaque fois au moment où je commence à être ému par le jeu des comédiens, elle arrive avec les violons et ça me cassait tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme ça une manière d'aller d'en faire toujours un peu trop, qui est dommage. Et on est entre le mélo et le film thérapeutique avec effectivement le documentaire un peu qui montre ce que les méthodes de cet oncologue. Donc, qu'on aimerait tout savoir à son chevet au moment où on va mourir, parce que contrairement à ce que dit Xavier.
Non,
sans la guitare. Mais voilà, enfin.
Et vous ne parlez le père pas. Fourrasse, là, de la formule toute faite, oh. Mais jamais.
Je t'apporterai le pas de chocolat. Fourra,
mais bien sûr, c'est exactement ça.
Il a une manière quand même assez, parfois effectivement agassante, mais à chaque fois il va dans la diplomatie. Enfin, c'est assez.
Oh,
donc voilà, je trouve dommage qu'elle ne sache pas le film qu'elle fait et qu'elle en fasse toujours un peu trop, qu'elle en rajoute et qu'elle en rajoute.
Oui, c'est pas le problème du mélo, en fait, parce qu'elle dit beaucoup, j'assume le mélo et tout. Moi, c'est pas le problème, le mélo. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à saisir ce que c'est que le bout de la vie qui n'est pas encore la mort, cette espèce de suspension d'entre deux qui est beaucoup plus évanescent. Elle est brutale, moi j'aime son cinéma, hein. J'ai aimé ses films précédents, je suis comme Xavier, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, mais là ça requiert une délicatesse qu'elle n'a pas, et paradoxalement elle l'a sur scène, parce que là je suis d'accord avec toi Jérôme, la préfiguration de ce qu'elle veut filmer, c'est-à-dire ce que fait Benoît Magimel avec ses élèves sur scène, est plein de délicatesse, où il les fait jouer une scène
avec
d'adieu,
et
moi je trouve que là on est quand même dans le ténu, dans la suspension, dans quelque chose d'évanescent comme ça, qui est tout petit, minuscule, mais qui est magnifique. Et là, et paradoxalement, et c'est quand même étonnant, elle y arrive, mais elle n'arrive pas à le filmer.
Après,
après, le film, il est très binaire, et moi, je suis comme Xavier, je ne veux pas de cet homme en chevet.
De son vivant d'Emmanuelle Berco, et avant, nous parlions de l'événement d'Audrey Diwan. Peut-être qu'il y a sur ces deux films des réactions dans le public ici au Théâtre de l'Alliance Française. Oui, une réaction. Bonsoir, madame.
Bonsoir, je vous attendais au tournant sur l'événement, je l'ai vu la semaine dernière et j'ai été en apnée, moi jeune fille qui n'a pas vécu d'avortement ou quoi que ce soit. En effet, c'était d'un contemporain absolu et surtout moi je tiens à saluer la virtuosité en fait de l'actrice principale,
Anna Maria Bartolomei,
qui vraiment m'a mise en apnée en fait pendant ce film où je suis restée vraiment et je me suis totalement identifiée alors que je n'ai pas du tout vécu une once de ce qu'elle a vécu. Et franchement, chapeau. Voilà.
Merci pour votre intervention, j'allais dire votre témoignage. Une autre réaction, monsieur, bonsoir.
Nicolas a eu raison de faire référence quand même où ça a été montré, monsieur Murat, dans quatre mois, trois semaines, on voit tout, absolument. Donc il ne faut pas dire qu'on voit plus dans ce film, effectivement, on voit beaucoup de choses. Cela dit, moi j'ai une petite réserve sur le plan esthétique, c'est-à-dire que ça se passe, on ne sait pas, 63, 58, 60... Et je trouve que ça, pour dire
63,
par rapport
à
Monsieur Murat, qui n'a pas aimé le début du film d'Almodovar, moi j'ai cru ne pas aimer ce film parce qu'il ne contextualise pas les années 50 que j'ai connues. Ça commence par une surprise partie qui est complètement ridicule, où je ne sais pas pourquoi il y a une musique qui ne correspond à rien, il danse n'importe comment, ça ne concrétise pas les années 50. Voilà.
C'est encore une fois 63.
Je sais bien, c'est ce que je suis en train de dire, que c'est que le film... Au début, n'est pas très bien, même si, effectivement, il est très bon après. Le début n'est...
Voilà. Merci pour ces interventions. Nous parlions à la fois donc de l'événement d'Audrey Diwan et de son vivant d'Emmanuelle Berco. La fièvre de Petrov du russe Kirill Serebrennikov. porte bien son titre. C'est 2h30 d'une fièvre qui ne retombe pas. Le cinéaste de l'excellent Leto adapte ici le roman d'Alexei Salnikov, Les Petrov, la grippe, etc. Le plan séquence d'ouverture, il est complètement fou. Une nuit dans une lumière verdâtre, un bus roule dans une ville en guerre, ou qu'on imagine en guerre, à bord du bus, rempli de zombies, un auteur de BD qui est grippé, alcoolisé, et qui va aller de Caraïbes dans Scylla, passer de la réalité au rêve, que dis-je, au cauchemar, voyager dans le temps, monter à bord d'un corbillard qui transporte un mort-vivant, assister au suicide d'un écrivain, avec un plan séquence de 18 minutes, qui est déjà d'anthologie. C'est à la fois inquiétant et absurde. Moi, j'ai pensé à la fois gore, parfois, et punk. J'ai pensé à du Tarantino soviétique, mais totalement irrésumable. J'en suis sorti lessivé.
Oui. Oui,
mais lessivé.
C'est vrai. Oui.
Et toi, tu trouves...
Ah ben, j'en suis sorti. Ben, c'est moi. Moi, j'en suis sorti absolument lessivé, mais
Pierre.
Mais ébloui. Je trouve que c'est un film où il y a des idées en permanence. Alors, c'est vrai qu'on sort quelquefois de films longs comme House of Gucci, par exemple, mais absolument accablé tellement c'est plat. Là, c'est magnifique. Et c'est vrai que là, moi, je sors de là crevé, fatigué, épuisé, mais heureux d'avoir vu du cinéma, quelque chose qui, avec des plans séquences, mais jamais gratuits. C'est-à-dire le plan séquence de 18 minutes où le héros rencontre un copain suicidaire, comme un personnage de Dostoïevski, parce que c'est vraiment très, très Dostoïevski. Pas tellement dans le fond, mais dans cette espèce de forme. Dostoïevski avait le génie de perdre des multitudes de personnages avec des facettes les plus diverses. Et ben, on retrouve cette tradition-là. Je trouve que c'est un film éblouissant pour moi. Voilà.
Xavier.
J'aime bien, tout à l'heure, tu as dit que tu aimais au cinéma l'épure et la litote.
Voilà.
Tu aimes les deux. Mais tant mieux. Mais tout à l'heure, c'était une règle absolue.
J'aime Romère et Billy Wilder.
Tout à l'heure, c'était une règle absolue qui n'avait aucune exception. Là, on a quand même l'exception pour longtemps.
Ah, bah oui.
C'est un mec qui se regarde tellement filmé. Alors, tu peux me dire que les plans séquences de 18 minutes sont complètement justifiés. Moi, je ne le vois à aucun moment. Il vient du théâtre et ça se voit. Donc, c'est réglé à la manière du théâtre. Effectivement, au bon endroit, le
c'est
décor qui
théâtre,
s'effondre,
Xavier.
Le truc qui se déchire. Il y a un moment, ça ne me raconte pas grand-chose. Ça me fatigue, mais ça me fatigue à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, moi, je me réfugie dans une espèce d'absence. Je ne veux pas subir ça. Il n'y a pas un plan où ça ne hurle pas, ça ne saigne pas, ça ne boit pas. Il n'y a pas la musique à hurler. Il y a un moment où les mecs, ils viennent avec un marteau pour me taper dessus.
C'est un film très réaliste. Hein. Ça se passe comme ça en Russie. C'est tout à fait
ça. Il y a quand même un gamin. Pierre, si tu prends mon temps de parole pour dire des bêtises pareilles, ça va, garde-le.
Pour les Russes, mais c'est un film
réaliste. Il y a quand même un gamin qui est enlevé par les extraterrestres, donc je ne vois pas en quoi ça va. C'est réaliste,
mais oui, c'est réaliste.
Alors peut-être que tu as été invité à une projection où il y avait de la vodka à volonté. Moi, malheureusement, il n'y en avait pas. J'ai vu un gamin qui s'élevait dans les airs vers une soucoupe volante. J'ai vu un truc en super 8 en caméra subjective avec un gamin.
T'as compris que c'était des fantasmes, quand même.
Mais
c'est fantasmé, ça.
C'est consternant. Le mec, il a peur du vide.
Le réalisme et les fantasmes. C'est fantastique.
Il a tellement peur du vide qu'il exclut tout le monde, a fortiori le spectateur.
Sophie.
Bon, moi je suis entre les deux. Je trouve que c'est à la fois inventif et assez éblouissant, effectivement. Je préfère Leto de loin.
Oui.
Je trouve quand même, là où je suis un peu du côté de Xavier, c'est que je trouve qu'il brouille un peu les pistes, hein, qu'il pousse un peu le bouchon. Moi je voudrais qu'on m'explique quand même, je suis toujours bloquée là-dessus, pourquoi dans le film de son enfance, alors qu'il s'appelle Petrov, tout le monde l'appelle Sergueï, alors que Sergueï c'est le nom de l'écrivain. Voilà. Et personne n'a, jusqu'à présent, ne m'a répondu à cette question. Bon,
parce
voilà.
Il ne sait plus qui il est.
Oui, alors, ou bien c'est un double, Sergueï.
Oui, c'est un double, on le voit
ça, on ne sait pas trop si c'est lui, oui, c'est ce qu'il aurait pu devenir.
C'est un peu trop raisonnable pour le.
Voilà, c'est ça.
Non, parce qu'au contraire, j'adore quand on est, justement, quand on n'a pas de réponse. Bon, alors, pour aller vite, c'est très inventif et c'est splendide, mais il pousse un peu.
C'est effrayant, splendide, mais effrayant.
Oh, pas tellement. Moi, j'avais la chèvre quand je l'ai vu.
Tu te fais exécuter dans la rue avec les gens qui te regardent dans le bus.
Ah oui.
Okay. Ouais, mais on sent bien que c'est
non, mais c'est un film, faut en prendre 10 minutes tous les matins et ça suffit. Il faut une posologie adaptée parce que c'est vrai qu'il y a plein d'idées formidables et que finalement, ça, tu peux pas dire que ça raconte rien sur la Russie. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ce bus qui bien incarne sûr, la société russe. Ah non, c'est pas
dire
non,
parce que
Xavier disait que ça ne racontait rien, ça ne disait rien.
Je répondais à Pierre qui disait que c'est un film réaliste. Bah oui, je lui ai pas dit que ça parlait pas de la Russie contemporaine. Nicolas, ne projette pas.
S'il vous plaît.
Je disais que c'est un film réaliste quand, parce qu'on picole et on hurle. Ça, c'est très réaliste. Et
en fait, je peux le faire ici, hein.
On masque aussi, on picole et on hurle.
Voilà, je vois pas où est la différence.
C'est Petrov ou presque.
Donc voilà, il mélange effectivement l'espace mental de ce type qui a la fièvre, et cette fièvre de Petrov, c'est aussi la mélancolie russe. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même à la fin, une demi-heure avant la fin, on change complètement de personnage et d'époque. On est en noir et blanc 30 ans plus tôt. On a l'histoire d'un personnage secondaire qu'on va comprendre, faire le lien à la fin, qui raconte toute la mélancolie du personnage. Et voilà, ça c'est quand même très beau. Donc voilà, c'est un film qu'il faut prendre à petite dose, mais qui recèle de choses passionnantes. Et effectivement, Leto était quand même plus fluide, plus limpide et plus maîtrisé. Mais il y a une folie, une liberté chez Serebrennikov qu'il faut quand même pas brider, quoi.
C'est la fièvre de Petrov, c'est signé Kirill Serebrennikov. J'avais inscrit aussi deux films. On ne pourra en dire que quelques mots, vraiment une poignée. C'est d'une part Les choses humaines, qui est l'adaptation par Yvan Attal du roman de Karine Thuil paru en 2019, lui-même inspiré d'un fait divers américain sur un viol. Alors le film, c'est comme le livre, hein, c'est lui, elle et le procès, avec Pierre Arditi, avec Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Suzanne Joanet et Ben Attal dans le rôle principal. Vous le conseillez ou pas?
Alors très vite, le début est très mauvais, c'est un diesel, il faut se roder, et après, à partir du moment où on rentre dans la salle d'audience, ça prend son sens, ça devient très bien. L'avocat a dit à un moment donné, il y a plusieurs vérités, mais il va bien falloir trouver une vérité judiciaire, et c'est la phrase clé du film qui fonde les relations humaines, et là le film devient intéressant.
Conseil ou pas, Xavier?
Oui, si vous avez une nostalgie du cinéma de Kayade, vous pouvez y aller, mais ça ne dépasse jamais ce niveau-là. Il y a une raison d'y aller, c'est Judith Chemla, qui est absolument formidable dans la...
Qu'on ne voit pas assez au cinéma.
Elle va arriver, un premier rôle dans un très très beau film qui arrive, mais voilà, elle est formidable dans la scène de prétoir. Pour le reste, c'est un peu didactique.
Et Pierre?
Du Kayade, du bon Kayade.
Oui, c'est ça.
Les choses humaines de Yvan Attal. J'avais également inscrit
c'est très bien le
film qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, qui est Le diable n'existe pas, de l'Iranien Mohammad Rasoulov, dont je rappelle qu'il a été condamné à la prison pour propagande contre le régime et que son passeport lui a été confisqué. Et là, c'est quatre histoires dont le thème est commun est la peine de mort. J'aurais voulu raconter ce qu'est chacune de ces histoires, mais on n'a pas le temps. Juste, je précise qu'il a été tourné par Rasoulov de manière clandestine dans son pays, l'Iran. Quelques mots, Nicolas?
C'est une charge assez implacable, et dans sa dialectique surtout, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, un tout petit peu trop démonstratif dans les deux premiers segments, et plus le film va vers la nature et s'échappe de la ville,
c'est la quatrième histoire,
et va vers les femmes, voilà, et donne le rôle aux femmes, plus le film s'ouvre et devient romanesque et voilà, il prend une dimension qui est vraiment plus belle, mais les deux premiers sont quand même pas inintéressants, mais voilà, faut se les farcir, j'allais dire, pour sortir de la ville et que le film s'envole. C'est quand même un film vraiment intéressant et qu'il faut aller voir.
Et je rappelle qu'il n'a pas pu recevoir son
ours d'or qu'il a eu.
Son ours d'or à Berlin. Pierre?
Ah oui, c'est un film qu'il faut voir absolument. C'est un film long aussi, mais magnifique. Et en effet, je suis d'accord. Le troisième sketch, pour tout dire, est absolument magnifique, je trouve. Je le raconte pas, mais c'est vraiment d'une douceur qui tranche avec la violence, parce que le film est très dur, très violent. Ça nous rappelle quand même qu'on a tous le choix, à un moment donné, des actes. C'est la responsabilité individuelle. Tous ces personnages doivent choisir. Ils choisissent de faire quelque chose ou de ne pas le faire.
Et ça se passe au moment d'une demande en mariage. Et
c'est magnifique. Le troisième sketch, jour d'anniversaire, ça s'appelle, est génial.
Sophie?
Oui, très beau. Un chouïa didactique quand même. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
C'est vrai.
Bon, le cinéma iranien est un cinéma philosophique. Hein. On voit avec Asghar Farhadi, avec tous les films qui arrivent là. C'est vraiment. C'est de la philo pure. Hein.
C'est pas didactique chez Farhadi.
Non, c'est pas didactique. C'est beaucoup plus incarné, mais c'est un cinéma qui aime la réflexion autour des grandes questions philosophiques, en quoi on est responsable, si on participe à une exécution, jusqu'à quel point on est responsable, etc. Bon, bref, mais c'est très beau, j'ai une préférence pour le premier et le troisième. Voilà, il faut le voir de toute façon, parce que même si j'ai cette réserve, le film est très beau et l'Iran y est magnifique.
Xavier?
Il a quand même une capacité. Alors, c'est le problème des films, entre guillemets, à sketch. C'est-à-dire qu'il faut attendre les 5 5 dernières minutes pour comprendre là où il voulait en venir. Mais pendant les 40 minutes que dure chaque histoire, on est scotché quand même par la maîtrise de la mise en scène, oui, qui ne va pas au sujet, qui semble comme ça tourner autour. Après, ça nous semble une évidence quand on a, entre guillemets, la révélation. Le problème, c'est qu'il y en a quatre, donc à un moment, on voit un tout petit peu le motif que cela construit. Et moi, je pense que c'est quand même un grand film sur la conscience.
Bien
c'est
sûr,
la conscience, conscience, la découverte de la conscience, le point de la conscience, et enfin se libérer de la conscience. Donc il y a une construction qui est un petit peu théorique, mais en même temps, on est scotché pendant 2h30 de ne s'ennuyer à aucun moment, alors qu'on ne maîtrise à aucun moment vraiment le sujet de chaque histoire. Donc, grand cinéaste.
Le diable n'existe pas, Ours d'or à Berlin, le film de l'Iranien Mohammad Rasoulov. Le temps est venu des conseils, on va commencer avec Sophie.
Je conseille un film qui sort dans 3 jours, mercredi prochain, Un endroit comme un autre, d'Umberto Pasolini, qui est un Italien qui vit au Royaume-Uni. Ça se passe à Belfast, c'est la relation entre un père joué par James Norton et son petit garçon de 4 ans. C'est poignant, c'est déchirant, c'est tendre, c'est magnifique.
Le conseil de Xavier.
Je suis complètement d'accord avec toi, Sophie. Merci. Vraiment, c'est le mélo épuré, comme va l'aimer Pierre. Moi, je conseille...
Vraiment épuré.
Je vais conseiller la sortie en DVD de la version longue de Bambi, le film de Sébastien Lifshitz, sur cette femme transgenre qui a habité les nuits de Paris et les nuits de Berlin. Femme sublime encore aujourd'hui, extraordinaire. C'était un film donc auquel il a rajouté une petite demi-heure, et c'est absolument bouleversant de voir cet homme devenir femme, devenir une femme parfaite, fatale, extraordinaire, avec un destin hors du commun. Et la caméra de Lifshitz la regarde avec à la fois amour, respect, amusement aussi de temps en temps. Voilà. Donc on avait adoré le film, et le fait d'en voir encore un peu plus, eh bien, ne nous le fait qu'aimer encore un peu plus.
Et moi, je vous conseille, comme chaque année, de voter pour le 32e prix des auditeurs du Masque et la Plume, pour votre prix. Vous nous adressez, s'il vous plaît, sur le site du Masque, franceinter.fr, à la page Réagir, le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2021, et cela jusqu'au 20 décembre, pour qu'on puisse fêter vos résultats en début d'année dans une émission spéciale. Le conseil de Nicolas.
Eh bien, c'est le nouveau film de Jane Campion qui s'appelle Le Pouvoir du Chien,
oui,
qui a eu le Lion d'argent à Venise, enfin le Lion de la meilleure réalisatrice à Venise, et qui est donc avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, qui est adapté d'un roman de Thomas Savage et qui est un faux western. Ça se passe vraiment dans le Montana à l'époque, vraiment voilà du western, et c'est un film vraiment sur le, on peut croire que c'est aussi sur la masculinité toxique, mais ce n'est pas que ça. C'est un film vraiment qui très vénéneux, qui se dévoile peu à peu et qui dévoile sa complexité, son ambiguïté. Il faut vraiment se laisser porter par l'ambiance, parce que c'est, et malheureusement, on va y arriver, c'est sur Netflix que c'est diffusé.
Et que c'est, Netflix.
Voilà, alors que c'est
un film.
Je crois
que tu l'as vu sur grand écran à Lyon. Hein,
alors, on pouvait le voir à Lyon sur grand écran. Et nous, on a eu le privilège qu'il y ait eu quelques projections de presse. Mais effectivement, si par hasard il est programmé près de chez vous, ce qui peut peut-être arriver dans le cadre de festivals ou autres, malheureusement, je crois que ce n'est plus trop le cas puisqu'il est en ligne depuis le 1er décembre. Là. Mais voilà, donc c'est vraiment un très beau film qui nous rappelle que Jane Campion, malheureusement, qui est passée à Netflix, est quand même une des grandes réalisatrices de notre époque.
Donc c'est le nouveau Jane Campion, et c'est uniquement sur Netflix.
Voilà.
Le conseil de Pierre pour finir.
Alors, pour les fêtes qui s'annoncent, il y a une encyclopédie de la comédie musicale par Patrick Brion. Il avait fait déjà, il y a les films français, il y a quelques mois, qui étaient magnifiques. Et là, je vous conseille vraiment, l'iconographie est splendide. On feuillette ce livre et on est heureux, quoi. Enfin, on sort
comme
de là
chez
avec Serebrennikov. Pardon.
Comme chez Serebrennikov.
Dans un autre genre, mais oui, d'une certaine façon, l'euphorie est la même. Sauf que c'est une euphorie hystérique chez Serebrennikov, et là, l'euphorie est beaucoup plus pacifiée. Et c'est aux éditions Télémaque.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Nicolas Chalère, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, à la technique, il y avait, je les remercie, Cédric Chatelus, Julie Garraud, Nicolas Depagraf. La réalisation était signée du très courageux Xavier Pestugia. Prochain enregistrement du Masque, c'est le jeudi 9 décembre. Je vous attends à partir de 19h au théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour une seule émission consacrée au cinéma. Et dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.